frères et sœurs, aujourd'hui, je pense qu'il est bon de méditer sur des grandes vérités de notre existence, des vérités que peut-être on aborde peu souvent. Par exemple, la question de l'âme. Qu'est-ce qu'une âme ? Comment est-ce que l'âme est dans le corps ? Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on va mourir ? C'est quoi la mort ? Et qu'est-ce qui se passe après la mort ? Et du coup, est-ce qu'il peut y avoir une relation entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants ? Et quelle est cette relation ? Quelle forme peut avoir cette relation ? Est-ce que nous pouvons influencer par nos actions, notre prière, les gens qui sont au ciel ? Je dis bien influencer les gens qui sont au ciel. Tout ça, c'est des questions auxquelles j'aimerais qu'on réfléchisse maintenant. Qu'est-ce que l'âme ? La Bible le dit, les penseurs de l'Antiquité le disent aussi. L'âme nous décrit la Bible, parce que la Bible ne l'explique pas, elle le décrit. L'âme, c'est le souffle de Dieu. Au début de la création, quand l'homme et la femme ont été créés, avant que l'homme et la femme soient créés, ça se passe dans l'actuelle Rift, l'Afrique de l'Ouest. Donc Adam et Ève étaient noirs. C'est bon de se le rappeler. Dans l'Afrique de l'Ouest, donc, il y avait deux singes très évolués, des sapiens sapiens, mais des singes très évolués, mais des sapiens sapiens. Voilà. Et un jour, Dieu a donné sa néphesh de vie à ces deux personnes, à des singes qui sont devenus des personnes du coup. C'est-à-dire que Dieu a donné sa vie divine, à deux sapiens sapiens, un mâle et une femelle. Et c'est comme ça qu'on a Adam et Ève. Chers frères et sœurs, Adam et Ève ne sont pas tombés en parachute de quelque part. Vous voyez ? C'est pas notre foi en tous les cas, c'est pas l'enseignement de l'Église. L'enseignement de l'Église, c'est simplement que voilà, il y avait un animal qui était un singe très évolué, qui a été évolué, puis à un moment, Dieu a décidé d'en faire un homme et une femme. Attention, de faire de celui-là et de celle-là un homme et une femme. Ça va ? Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que dans notre être, dans notre personne, il y a une dualité. Il y a quelque chose qui peut combattre l'un contre l'autre ou qui peut être en harmonie l'un avec l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la base, c'est donc une base animale. Et nous avons des fonctions animales. Pas besoin d'être grand grec pour le voir. Ouvrez les journaux, ouvrez la télé, vous allez voir les animaux en pleine action. Parce que non seulement on a la possibilité de n'être que des animaux, mais on a aussi la possibilité d'être des animaux animés par le souffle de Dieu. Et cette animation fait de nous des personnes capables de vouloir, capables de réfléchir et capables de se rappeler pour pouvoir être capables de progrès. Il y a plusieurs distinctions qu'on peut faire, mais je ne vais pas vous faire un cours de philo, mais les éléments de philo sont quand même importants. Il y a plusieurs distinctions qu'on peut faire à quelqu'un qui vous demande « Mais quelle est la différence entre un tigre et un homme ? Quelle est la différence entre un animal et un homme ?» Et c'est important de voir qu'il y en a une. Ben, la plus grande de toutes les différences, c'est que l'homme est capable de progrès. Parce qu'il est animé. Et qu'il est capable d'aimer. Comme Dieu aime, parce qu'il est animé. Est-ce que l'animal a une âme ? Non. Ben non, désolé. Les animaux sont très bien, ils nous rendent service. Moi, je les aime beaucoup, les animaux. Vraiment. Et je pense qu'une vie sans avoir autour de soi des animaux, oh, c'est pas très marrant. Enfin, c'est comme vivre sans avoir de plantes. C'est comme dire, on a tout ça, on en a besoin. On a besoin des animaux. Des animaux de compagnie nous rendent un très très grand service. Mais est-ce que ce sont des personnes comme nous, sommes des personnes? Non. Et il faut le dire, c'est important. Il faut que les choses soient à leur place. Il y a deux penseurs dans l'Antiquité et qui ont parlé de cette place, de ce souffle de vie dans la personne humaine. Le premier, c'est Platon. Alors Platon, son idée, c'est que l'âme est emprisonnée dans le corps. Et donc toute sa vie, dit Platon, on va essayer de se débarrasser du corps. Faut pas le faire. Je vous conseille pas de suivre Platon. Parce que si vous faites ça, vous allez être insupportable. Là, c'est vrai. C'est pas, essayez de vous séparer de votre corps, ça va être l'enfer. Enfin, ça va être l'enfer pour vous. D'ailleurs, c'est l'enfer dans ces cas-là. Et puis ça va être aussi l'enfer pour les autres. Parce que vivre avec quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec son corps, ça sent mauvais. Vous voyez ? Platon veut se débarrasser tout de suite de son corps. Il y a des gens qui sont comme ça. Aristote. Aristote, lui, son idée, c'est que l'âme est au principe de notre vie. L'âme est à l'origine, est au centre du centre de notre être. Et c'est cette âme, cette nefesh de vie, il ne l'appelle pas comme ça Aristote, parce qu'il n'a pas rencontré le Dieu trois fois saint, mais il a compris par son intelligence que l'âme était au cœur, au centre, était le principe de notre existence. Et que cette âme, elle animait notre corps. Et qu'un corps animé, et qu'un corps qui respecte l'âme qu'il a en lui, eh ben c'est quelqu'un qui vit de façon harmonieuse. Vous voyez ? Mais il y a aussi des excès, il y a aussi des gens qui considèrent que le plus important c'est que le corps, ou que le plus important c'est que l'âme, vous voyez. Et on ne peut pas séparer les deux. C'est ça qui est important, la première chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le bon Dieu nous invite à harmoniser notre existence, notre être. Et que notre âme et notre corps soient bien harmonisés l'un avec l'autre. Où est l'âme dans notre corps ? Partout. C'est un mouvement de vie, c'est un principe, vous voyez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'âme, il y a notre corps, que l'âme et le corps sont mélangés ensemble, et que du coup, notre corps va être animé. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un corps, avec nos corps, parce que ça nous met dans une profonde tristesse. On en parlera dans 2 minutes. Donc nous vivons toute notre existence en essayant de vivre cette harmonie. Je passe les détails de la vie humaine. Arrive la fin de la vie, arrive la mort. Qu'est-ce qui se passe quand cet être hybride, parce que vous avez compris qu'on était un être hybride, âme plus corps égale être hybride. Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? À l'instant où, poum, on meurt. Important de le savoir, l'Église a un enseignement là-dessus. D'abord, ça fait pas mal. Bon, le savoir, on a mal avant, on a pas mal pendant la mort. La mort, c'est facile. Tous les écrivains le disent, tous les penseurs le disent. À ce moment-là, il y a une séparation de l'âme et du corps. Eh oui, le corps revient dans la terre et pourrit. Même les plus beaux corps, même les corps que vous avez aimés, que vous avez célébrés dans le mariage, désolé de vous dire, ils reviennent à la terre. Et c'est pas complètement idiot de se le rappeler de temps en temps pour pas être complètement zinzin du corps d'un autre ou d'une autre, vous voyez. Important. Donc le corps dans la terre et l'âme au ciel. Ça va ? C'est clair. Ça veut dire que au ciel, nous sommes présentés à Dieu. Alors quand je dis l'âme, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on peut se figurer l'âme ? Il est difficile de se figurer l'âme. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que l'âme est toujours intelligente, a toujours une mémoire, intelligence, mémoire, et j'oublie le troisième à l'instant parce que je pense à autre chose. Hein ?
La volonté.
La volonté. Voilà. Elles sont bien formées, les sœurs. Ça fait 43 millions de fois que je raconte la même chose, donc évidemment, au bout d'un moment. Donc la volonté, l'intelligence et la mémoire. Et on se présente devant Dieu. Tout le monde, hein ? Hitler, Staline, vous, moi, tout le monde devant Dieu. Et à ce moment-là, c'est le jugement dernier, ce qu'on appelle le jugement dernier. Comment ça se passe ? Très bien. Ça dépend de nous, pas de Dieu. Dieu arrive vers nous, le Père éternel arrive vers nous. Alors peut-être qu'il y a Jésus pas loin, l'Esprit Saint pas loin. Il nous ouvre les bras et il nous pose une question. Et il nous dit, veux-tu que je t'aime pour l'éternité ? That is the questions. The one. La seule qu'il faut retenir. C'est ça le jugement dernier. Veux-tu que je t'aime pour l'éternité ? Donc si vous, vous avez aimé pendant toute votre vie terrestre, même si vous n'avez pas été à la messe toutes les semaines, je dis ça, il faut aller à la messe toutes les semaines, hein, mais... Même si vous ne vous sentez pas très cachère, même si vous sentez, oh, vous avez fait des accros, machin, et puis vous êtes très honteux, vous êtes dans le... Si vous avez aimé le mieux possible, quand vous allez voir Dieu, vous allez reconnaître, vous allez entendre cette parole, veux-tu que je t'aime pour l'éternité, à ce moment-là, vous allez lui sauter dans les bras, évidemment. Et là, vous êtes sauvé. Si toute votre vie sur la terre, vous n'avez pas aimé, je veux pas aimer, je veux pas me donner, je veux pas partager, je veux pas pardonner, je m'enferme sur moi, mais ça existe, il y a des personnes qui ont vécu comme ça et qui vivent comme ça. Et bien au moment où Dieu vous dira « Veux-tu que je t'aime pour l'éternité ?» vous serez incapable de sauter dans ses bras. Vous serez incapable de dire oui. Et là, comme dit l'Écriture, les brebis à droite, les boucs à gauche. Bah là, vous comprenez bien que le jugement dernier, c'est pas Dieu qui le fait, c'est nous. Et du coup, bah, comme on ne veut pas aimer pour l'éternité, bah, on va en enfer pour l'éternité. Voilà, c'est tout. C'est nous qui l'avons décidé, en fait. C'est nous qui décidons l'enfer. Mettons la question de l'enfer de côté, parce que sinon ça va être... Oh là là, le temps passe trop vite. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'on est comme des enfants. Pensez à des enfants qui jouent dans une cour de récréation. Où il n'y a pas de bitume, où c'est du sable, il y a de l'eau, il y a de la boue, il a plu. Alors forcément, les enfants, quand ils arrivent et que leur grand-mère arrive ou que leur mère arrive, ils sont boueux. Et quand leur mère leur dit « Mais veux-tu que je t'aime pour l'éternité ?» ou leur père « Veux-tu que je t'aime pour l'éternité ?» ils sont pleins de boue. Ceux d'entre nous qui n'auront pas de boue, qui seront tout purs, hop, direct au ciel. Thérèse de l'Enfant Jésus, Jean-Paul II, le curé d'Ars, les sœurs qui sont là. On a tous dans le cœur, dans la tête des figures de saints, vous voyez. Un saint, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a été purifié sur la terre, c'est tout. Et qui arrive au ciel, pas de tâche. Donc il se jette dans les bras de Dieu et boum, il va direct au paradis. Si sur la terre... on a péché, on a demandé pardon à Dieu, mais qu'on n'a pas encore justifié notre péché. Si par exemple, voilà, vous avez fait un péché grave, mentir par exemple, vous êtes allé vous confesser, très bien, mais vous n'avez pas encore fait votre jubilé, vous n'avez pas encore reçu d'indulgence plénière, eh bien il va falloir justifier votre péché. C'est-à-dire que vous allez arriver devant Dieu avec des tâches que vous ne pourrez pas enlever par vous-même et il va falloir aller les enlever. Alors, bonne nouvelle, un, vous savez que vous êtes sauvé et deux, vous savez que les tâches, elles vont finir par partir. Mais dans un endroit qui s'appelle le purgatoire. Et là, ça chauffe. Le purgatoire, ça chauffe. Vous voyez, ça... Je fais exprès, purgatoire, on purge, on se nettoie. Est-ce qu'on sait ce que vivent les âmes du purgatoire ? Oui, on le sait très bien. Et vous le savez très bien. Les âmes du purgatoire, elles vivent constamment ce que vous vivez, ce que nous vivons quand nous sommes tentés quand nous allons bien et que nous péchons, vous voyez la souffrance qu'il y a juste derrière ? C'est exactement ça que vivent les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire, elles vivent cette souffrance. Combien de temps ? On n'en sait rien. Mais on sait une chose, c'est qu'on peut les délivrer. On peut apaiser leur souffrance. En faisant quoi ? En faisant dire des messes pour elles. En priant pour elles. C'est très étonnant, mais nous pouvons agir pour les âmes qui sont au ciel. Nous pouvons, entre guillemets, vous voyez, il faut mettre un peu des guillemets quand même, ben nous pouvons sauver les âmes du purgatoire. Et il y en a même parmi vous, parmi nous, dont c'est le don particulier, il prie toute la sainte journée pour les âmes du purgatoire. Et il y a des âmes du purgatoire qui sont délivrées grâce à notre prière, bien sûr. Et vous pouvez tout à fait faire un parcours jubilaire pour une âme du purgatoire et une autre, et la délivrer. Ding ! Et vous finissez ici, après avoir fait le tour de l'église, vous êtes confessé, avoir participé à la messe, vous pouvez être fier, vous avez délivré une âme du purgatoire. Et je suis en train de vous donner l'enseignement de l'église, hein. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. C'est super sérieux. Est-ce qu'il fait qu'il y en a parmi vous qui tournent régulièrement dans l'église, quoi. Je veux dire, tellement attaché aux âmes du purgatoire. Maintenant, une fois qu'on est délivré, qu'on est au ciel avec Dieu, qu'on jouit de la présence divine, est-ce qu'on peut être en relation avec les gens qui sont sur la terre ? Mais oui, chers frères et sœurs. Et on oublie cette dimension. Et c'est très important, surtout quand on a vécu un deuil. On peut leur causer. Et ils répondent, c'est ça qui est fou. Mais oui, vous pouvez causer aux gens qui sont morts, vous pouvez leur parler. Et là, je ne suis pas en train de vous raconter un truc un petit peu bizarroïde, loufoque, vous voyez. Non, les âmes du purgatoire, les âmes existent. Elles sont vivantes et vous pouvez leur parler. Vous pouvez causer à votre grand-père, à votre grand-mère, à votre arrière-grand-père, à votre arrière-grand-mère. Moi, j'ai quelques questions à poser à mon arrière-grand-père, oui, qui vivait à la Martinique dans des conditions un peu bizarres. Bah oui, c'est la vie. Mais ça change notre vie. Parce qu'à partir du moment où on cause avec les âmes du purgatoire, avec les âmes qui sont au ciel, à partir du moment où on cause avec les gens, eh ben, la mort n'est plus un drame. Petit à petit, qu'est-ce qui rentre dans notre cœur ? Ben, que la mort, c'est pas si grave. Vous voyez, ça atténue. Ça ne veut pas dire que ça enlève la souffrance, hein. Ça, je ne veux pas vous vendre un truc qui n'est pas vrai. Mais il y a quelque chose qui est atténué. Et puis surtout, avoir un cher ami qui est mort et qui vous parle dans votre cœur, qui montre sa présence, c'est d'une aide inestimable. J'en fais l'expérience personnellement tous les jours. Tous les jours, je cause à Bruno, tous les jours, je cause à Jérôme, tous les jours, c'est des paroissiens qui sont morts. Et il me parle. Ah, Bruno, il a une drôle de façon de me parler. Parfois, il me regarde comme ça et je comprends tout de suite. Mais vous voyez, la vie, ce que je veux vous dire aujourd'hui, le jour où nous faisons mémoire de nos morts, c'est que c'est la vie, en fait. Et que d'une certaine façon, eh ben, la mort est une chance. Ben oui. Parce qu'il y a un moment où nous sommes faits pour vivre la plénitude de la vie divine au ciel. On est fabriqué pour ça. Et c'est la mort qui le permet. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être morbide. Je suis juste en train de vous essayer de vous décrire une réalité qui, je pense, est magnifique. Alors pardon, j'ai été un peu long, mais ce sont des choses dont on ne parle pas souvent. Et qu'il est bon d'entendre de temps en temps. Amen.